Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Au Moyen Âge, certaines femmes ont fait de leur foi une expérience radicale. Parmi elles, des mystiques, des visionnaires, des réformatrices ou encore des martyrs. Elles ont chacune à leur façon marqué leurs contemporains. Leur rapport au divin différait souvent de celui des hommes, plus intime, plus sensoriel aussi, et il était accueilli parfois avec méfiance par l'institution. C'est cette diversité de parcours qu'André Vaucher a choisi de retracer dans son dernier livre, « Les passionnés de Dieu », publié aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage qui éclaire la place des femmes dans la sphère religieuse médiévale, à une époque où leur voix était rarement entendue. Alors, qui étaient ces passionnés de Dieu? La réponse tout de suite avec André Vaucher. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et spécialiste d'histoire religieuse médiévale. Et alors, dans votre dernier livre, vous vous intéressez à l'émergence d'une religiosité au féminin au Moyen-Âge. Alors, il faut peut-être rappeler que celle-ci, elle se fait dans un contexte où, bah, quand même, les femmes, la femme est d'abord décriée dans la littérature biblique, notamment. Elle est assez mise à mal, dévoyée. Il suffit de regarder la Bible, la pensée de saint Augustin, par exemple.
Voilà, effectivement, l'image de la femme que véhicule la société médiévale, l'Église médiévale, est assez négative, surtout dans la période, je dirais, antérieure au XIIe siècle, parce que le Moyen-Âge n'est pas uniforme, c'est une période qui dure presque 1000 ans, donc il faut distinguer un haut Moyen-Âge où la condition féminine semble avoir été très dure, et une période de transition 12e-13e, et une amélioration sensible, un relèvement du niveau, disons, à la fin du Moyen-Âge. Donc, il faut faire attention de la période où on se situe. Et alors, un autre problème qui se pose pour l'histoire des femmes, en général, pas seulement dans le domaine religieux, c'est que nous avons très peu de sources pour la période, justement, antérieure au XIIe siècle, parce que les femmes n'écrivaient pas, et on ne parlait pas beaucoup d'elles, même s'il y avait déjà beaucoup de moniales, ou certainement de femmes qui avaient des expériences spirituelles intéressantes, mais elles n'ont laissé aucune trace, donc, ou très peu. Si bien que, à partir du XIIe siècle, nous avons l'impression que ça change, mais ça change aussi au niveau de nos sources.
Bien sûr.
C'est parce que nous avons davantage de textes qui nous fournissent des indications que nous pouvons en parler.
Voilà. Vous le dites dans l'introduction, vous avez renoncé à parler des moniales, notamment parce qu'il
n'y
avait pas du tout de sources.
Il y a eu des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de moniales, mais nous n'avons rien gardé d'elles, et donc difficile d'en parler.
Alors, en plus de préjugés solides à l'encontre des femmes qu'on peut trouver dans la littérature au début du Moyen-Âge, ces dernières ont aussi très peu accès à l'instruction religieuse. Parce que ça, vous le rappelez dans le livre, l'instruction religieuse, elle se fait en latin. Or, la grande majorité des femmes ne sait ni lire ni écrire à l'époque. Et ça, c'est aussi un obstacle de taille pour accéder chez les femmes à une connaissance religieuse.
Absolument. Alors, il faut bien voir que les femmes, encore plus que les hommes, sont à peu près totalement incultes, au sens qu'on donnait à ce mot au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas accéder à l'écrit, parce qu'on écrivait guère qu'en latin, jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'à la fin du XIIe, disons, on écrivait guère qu'en latin. Or, le latin leur était inconnu, il n'y avait pas d'école, ni pour les garçons, ni pour les filles, mais les garçons, on se souciait, dans les milieux aristocratiques surtout, de leur donner un peu d'instruction. Les filles, on considérait que c'était du temps perdu, que c'était inutile, puisque de toute façon, leur rôle était d'être des épouses et des mères ensuite, donc elles n'avaient pas besoin d'accéder à la culture. Donc nous sommes dans un monde où l'inculture est généralisée en milieu féminin. Voilà, donc il faut toujours partir de cette considération que les femmes, jusqu'au XIIIe et même au-delà, souvent, sont exclues du système scolaire. L'université, n'en parlons pas, il n'en est même pas question pour elles. Et donc, si elles veulent développer, exprimer ce qu'elles ressentent, eh bien, ça sera par d'autres moyens.
Effectivement, et c'est pour cette raison qu'à l'époque, on décompte d'assez rares figures féminines dans cet environnement religieux. C'est un peu au cas par cas au début, avec des pionnières, comme par exemple Hildegarde de Bingen, dont la pensée va beaucoup marquer ses contemporains. Elle a une pensée qui peut sembler même novatrice pour l'époque, on peut dire ça ?
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est une des premières avec Héloïse, la fameuse compagne d'Abélard, mais Héloïse, nous ne possédons pas beaucoup d'œuvres d'elle, donc il est assez difficile d'en parler, même si elle a fini sa vie comme abbesse dans une communauté qu'elle avait créée, qui était très originale. Mais vraiment, la première grande figure féminine dans le domaine religieux au Moyen-Âge, c'est Hildegarde de Bingen. Bingen, c'est sur les bords du Rhin, et elle a fondé là un monastère, ou plutôt une communauté de femmes recluses, qui vivaient pas vraiment sous la règle de Saint-Benoît, mais enfin qui vivaient ensemble, et qui est une femme très originale pour son temps. Elle a laissé une œuvre, elle a écrit beaucoup de traités sur les sujets divers, théologiques, mais aussi sur la santé. Aujourd'hui, elle est très réputée. On vend même des produits sous son nom, des recettes médiévales qu'elle a inventées, etc., pour se guérir. Elle est très préoccupée des problèmes du corps.
Et du couple
et
aussi.
Du couple. Alors, elle a justement des vues très ouvertes par rapport à la moyenne de ses contemporains sur le problème du couple. D'abord, elle réhabilite la femme. Bien sûr, elle ne conteste pas le péché originel, l'existence, les fautes qu'a pu commettre Ève et qu'on impute à l'ensemble du sexe féminin. Mais elle met l'accent sur, justement, moins sur la femme que sur le couple, et sur le rôle de la femme dans le couple. Et elle montre bien le fait que la femme est liée à la vie. La vie se transmet par les femmes, la femme est vraiment à l'origine de la vie. Et évidemment, il y a la référence pour elle, c'est la Vierge Marie. Nous sommes à l'époque où toutes les grandes cathédrales sont dédiées à Notre-Dame. Il y a un renouvellement de la vision de la femme dans laquelle elle joue un grand rôle. Et elle a une vision donc plutôt optimiste qui s'oppose à la vision inspirée par saint Augustin qui, bon, disait oui, et bien sûr, les femmes seront sauvées comme les hommes, mais enfin, elles sont quand même fondamentalement pécheresses, donc il faut s'en méfier, elles ne sont pas fiables, etc. Oui. Donc, avec Hildegarde apparaît une vision plus optimiste de la femme.
Oui, j'ai retenu cette idée qu'elle transmettait, que de l'importance du plaisir sexuel, par exemple, dans le couple, et la nécessité de l'importance de la réciprocité des sentiments dans le couple.
Elle dit même des choses qui peuvent encore aujourd'hui nous paraître intéressantes. Elle dit, par exemple, les enfants qui naîtront de couples qui s'aiment vraiment seront des enfants plus heureux que les autres. Bon, très bien.
Alors, il y a un autre événement qui favorise aussi l'apparition des femmes dans le monde religieux, c'est la naissance des ordres mendiants. Alors, pour rappeler ce que c'est, les ordres mendiants, ce sont des groupes religieux dans lesquels on va faire vœu de pauvreté. Les femmes peuvent avoir un rôle dans ces ordres mendiants qui commencent à apparaître au XIIIe siècle, c'est ça ?
Voilà. Alors, les ordres mendiants, c'est effectivement la grande nouveauté du XIIIe siècle avec François d'Assise, donc qui meurt en 1226, et Saint-Dominique, qui est mort en 1221. Voilà, le premier à fonder ce qu'on appelle l'ordre des frères mineurs, que nous appelons, nous, les franciscains, mais à l'époque, on les appelait... Enfin, c'est le nom qu'ils ont choisi, mineurs, au sens de se situer volontairement en bas de la société, de vivre dans la pauvreté et avec les pauvres, voilà. Et les dominicains, les frères prêcheurs, qui eux avaient plutôt vocation à enseigner, mais qui cherchaient aussi un contact avec, disons, les masses populaires et pas seulement les élites sociales de l'époque. Alors, la grande nouveauté, elle vient de François d'Assise, qui véritablement innove dans ce domaine-là comme dans bien d'autres, et qui a une sympathie spontanée, je dirais, pour les femmes, dans la mesure où... Pour lui, la valeur suprême, c'est l'humilité, l'abaissement, et que justement, les femmes sont, dans la société où il vit, les femmes les plus humiliées ou les plus humbles, et celles qui ont le moins de pouvoir. Or, le franciscanisme est aussi une réaction contre le fait que les moines étaient très riches, possédaient une grande influence, un grand pouvoir. Donc, réaction contre la richesse, contre le pouvoir... et contre la culture, non pas en tant que culture, mais en tant que privilège réservé à une élite. Voilà. Et donc tout cela, François valorise donc ces contre-valeurs. Ce sont des valeurs, au fond, féminines, parce que la femme n'a pas de pouvoir, Tant qu'elle est mineure, elle est sous le pouvoir de son père. Quand elle est mariée, elle est sous le pouvoir de son mari. La plupart des femmes étaient dépourvues de tout pouvoir. Elles n'avaient même pas le droit de signer un acte notarié. Donc, avec François, il y a une véritable valorisation de l'humilité, de la pauvreté, et donc, par contre-coup, de la condition féminine. Ce qui, d'ailleurs, se traduit dans le fait qu'une des premières converties par François est Claire d'Assise, qui est une femme véritablement d'élite, extraordinaire, qui a créé une branche féminine, si je peux dire, de l'ordre franciscain. François n'avait pas essayé de créer une branche féminine, mais elle l'a fait à sa place. Et elle a lutté toute sa vie, pendant une trentaine d'années, pour être autorisée à vivre dans la pauvreté, parce qu'on considérait l'Église comme institution, considérait que des femmes ne pouvaient pas vivre dans la pauvreté, sinon elles étaient obligées d'aller mendier. Si elles mendiaient, elles étaient en danger, ou elles mettaient en danger la société en se promenant dans les rues. Et donc, les communautés religieuses féminines devaient être pourvues de biens. Et ce que Claire et François refusent, c'est justement d'avoir des biens. Mais au fond, il faut vivre au jour le jour dans la disponibilité à Dieu et à l'accueil des autres, etc. Voilà. Donc, avec le franciscanisme, il y a véritablement un tournant, et la religion se fait beaucoup plus ouverte à l'élément féminin.
Et vous dites aussi quelque chose de très intéressant sur ces femmes qui choisissent d'entrer en communauté religieuse. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre ce choix que font certaines femmes. C'est aussi un moyen de conserver une forme de liberté pour ne pas passer leur vie dans la soumission du mari. Elles ont en tout cas une autonomie vis-à-vis de leur corps, une autonomie que la femme mariée ne pouvait pas avoir. Ça, faut l'avoir en tête aussi.
Absolument. Il faut un petit peu nuancer justement les jugements négatifs qu'on porte parfois sur le fait pour les femmes d'être enfermées dans des monastères, dans des couvents. Parce qu'il faut bien voir que pour beaucoup d'entre elles, Cette entrée dans la vie religieuse, qui impliquait des vœux, en particulier le vœu de chasteté, n'était pas ressentie comme une brimade ou quelque chose de négatif. Une fois qu'elles étaient entrées dans ces communautés, elles étaient d'abord protégées par des murs, même physiquement, mais surtout, elles étaient relativement indépendantes et la femme, comme je disais à l'instant, était toujours dépendante de quelqu'un, de son père, de son mari. Elle dépendait d'une abbesse, mais l'abbesse, elle l'élisait elle-même, donc c'était pas tout à fait la même chose. Et c'est justement dans cet espace de liberté qui était assez exceptionnel pour l'époque, pour les femmes de l'époque, qu'elles ont pu développer une activité d'abord de type culturel, en recopiant et en illustrant, en illuminant des manuscrits. Et donc, parfois, elles apprenaient à lire et parfois à écrire en faisant ce genre d'activité.
En plus, elles avaient une éducation savante.
Et en plus, elles avaient du temps, si je peux dire, non seulement pour la prière, mais aussi pour exprimer, parfois par écrit, leurs expériences intérieures. Alors, elles n'écrivaient pas elles-mêmes, on a très peu conservé le texte écrit par des femmes au XIIIe siècle. Une fois qu'elles avaient atteint un certain niveau de vie spirituelle, d'intensité spirituelle, elles dictaient leurs expériences, leurs pensées à des religieux hommes qui devenaient leurs secrétaires, leurs confidents, etc. Ce qui nous a permis quand même d'accéder un peu à leur monde intérieur. Parce qu'à partir du moment où on a des textes dictés par des femmes, bien sûr qu'il y a un intermédiaire qui est un homme, mais enfin, malgré tout, on arrive à retrouver l'accent authentique à travers les textes.
Vous êtes aussi intéressé à des femmes qui ne se sont pas nécessairement engagées dans des ordres ou dans des collectifs précis religieux. C'était des femmes laïques, donc, qui vivaient en société, en tout cas qui ne faisaient pas des vœux stricts religieux. C'est un profil de femme qui vous a beaucoup intéressé. Et donc, parmi elles, il y en a une qui s'appelle Sperandia. Sperandia de Cingoli.
Oui. Là aussi, je prononce bien. Pas très connue en France,
très
en tout
peu
cas.
Connue, c'est une Italienne. Alors, elle appartient, parce que dans ce livre, vous faites plusieurs profils de femmes. Je le disais dans l'introduction, il y a les mystiques, les réformatrices. Sperandia, elle appartient plutôt à la catégorie des solitaires, des vagabondes. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement, cette femme?
Alors, d'abord, il faut effectivement prendre en compte le fait qu'à partir du XIIIe siècle, on a beaucoup de femmes laïques qui entrent dans la vie religieuse ou qui se sanctifient d'une façon ou d'une autre, ben, ce qui est une nouveauté, parce que jusqu'au XIIe, on considérait que une femme qui voulait accéder à une vie religieuse un peu intense devait nécessairement entrer au monastère. Or, bien sûr que les monastères féminins continuent à exister, il y en aura toujours, mais l'idée nouvelle qui se fait jour à ce moment-là, c'est qu'on peut très bien mener une vie religieuse authentique et même approfondie, tout en restant dans le monde. Mmh. Alors évidemment, il ne faut pas mener une vie trop mondaine, mais on peut très bien, sans s'enfermer dans un monastère, être une bonne chrétienne et même parfois devenir une sainte ou être reconnue comme telle. Voilà. Donc, on voit se multiplier les cas de femmes, souvent issues du milieu modeste, pas forcément
des
reines ou des princesses, il y en a, mais enfin, il y a aussi des simples femmes de milieu paysan ou citadin qui deviennent des références pour leurs contemporains parce qu'elles ont une action assez extraordinaire et beaucoup de femmes à l'époque aspirent non pas à entrer dans les communautés, mais à vivre en recluse, c'est-à-dire en prenant une distance par rapport au monde, en s'enfermant dans un reclusoir, enfin ça peut être tout ça un abri quelconque, mais qui communique avec le monde, où les gens peuvent venir leur demander des conseils, où elles peuvent elles-mêmes transmettre des messages, etc. Mmh. Voilà, donc cette Sperandia, elle est remarquable parce qu'elle a effectué une vie érémitique, c'est-à-dire qu'elle s'est réfugiée à un moment dans une grotte où elle a vraiment vécu une vie extrêmement dure. Et les prodiges, justement, d'ascétisme qu'elle a accompli dans ces années-là, lui ont valu l'admiration de son entourage, des gens de sa région. C'est les marches, c'est la.
Ouais, elle était très appréciée.
En Italie centrale, côté du versant adriatique. Cela lui a donné donc un certain prestige qu'elle a utilisé de façon très efficace. Alors d'abord, en allant prêcher. Alors prêcher, c'était interdit aux femmes. Et au Moyen-Âge, une femme n'avait pas le droit de monter en chaire et de faire des sermons. Mais les femmes de cette époque inventent une manière de prêcher qui consiste à aller dans les villes avec un objet, en général une croix ou une corde, en se frappant elles-mêmes avec un fouet, enfin, de façon à attirer un peu l'attention des contemporains et à leur transmettre une image du Christ souffrant et à leur rappeler qu'eux aussi ils devaient suivre, chacun à son niveau, le message du Christ. Voilà. Donc elles deviennent des témoins, font une sorte de prédication par le geste, l'image. Elles transportent aussi des images saintes qu'elles exhibent dans les rues, etc. Voilà, donc elles attirent les gens et elles essayent, là où elles passent, d'avoir une influence, en particulier au niveau de la paix sociale, parce que les villes italiennes étaient déchirées par des conflits de partis très violents entre les éléments populaires, les éléments aristocratiques, etc. Eh bien, partout où elles passent, elle prêche la paix, elle essaye aussi de remettre de l'ordre dans une société très violente, elle oblige un seigneur qui avait enlevé la femme d'un de ses paysans à la lui rendre, en le menaçant de damnation éternelle. Voilà. Alors, elles n'ont pas un pouvoir institutionnel, mais elles ont un pouvoir charismatique qui fait qu'on les respecte et parfois on leur obéit. Donc c'est un phénomène intéressant parce que pour la première fois, on voit vraiment des femmes devenir des forces agissantes dans la société.
Alors, concernant cette Sperandia, le peuple l'apprécie, mais l'Église, je crois, à la fin de sa vie, l'a quand même obligée à retourner dans un cloître.
On la stabilise parce que le problème, c'est qu'on n'aimait pas les femmes errantes.
Ouais, c'est ça, ouais.
On craignait toujours le dérapage. Et donc, on l'a obligée à se stabiliser dans une petite ville, des marches s'appelle Cingoli, et là, de fonder une petite communauté monastique. On ne sait pas très bien sur la fin de sa vie, on n'est pas bien renseigné, donc on ne sait pas très bien comment ça a fini. Mais dans d'autres cas similaires, on voit que une fois que la femme a été stabilisée, elle continue quand même à avoir des relations avec le monde extérieur, parce qu'elle reçoit beaucoup de visiteurs. Comme on sait qu'elle a une expérience particulièrement forte dans le domaine religieux, il y a même des prêtres ou des évêques, voire des cardinaux, qui viennent consulter cette simple femme, parce qu'on pense qu'elle a des clartés particulières, une relation particulière avec le surnaturel. Voilà.
Il y a d'autres profils de femmes que vous évoquez dans ce livre qui vont même peut-être plus loin que celui donc, de Sperandia, qui reste quand même malgré tout assez solitaire. Il y a des femmes plus charismatiques qui vont prendre la parole et tenir des discours qui sont normalement tenus par les hommes à l'époque. Donc là, vous parlez d'une autre Italienne qui s'appelle Angèle de Foligno. D'où vient-elle ? Qui est-elle ?
Alors, Angèle de Foligno, c'est justement une personnalité typique de ce mouvement de laïcs qui restent dans le monde, mais qui sont, à un certain moment, se convertissent à une vie plus pieuse, plus chrétienne, et qui deviennent des maîtres spirituels. Alors, c'est assez étonnant, mais elle devient véritablement une autorité dans le domaine de la relation à Dieu. Donc, une femme mariée qui a des enfants, puis à un bon moment, tout ça disparaît, son mari meurt, ses enfants aussi, elle se retrouve seule. Et à ce moment-là, elle se lance, je peux dire, dans la vie religieuse, mais au sens d'une vie personnelle, d'une relation personnelle avec Dieu. Elle a des visions, des révélations, et puis à un moment, elle juge que ce qu'elle vit, il faut qu'elle le fasse savoir autour d'elle. Donc elle a un cousin qui est franciscain et qui devient son secrétaire, on peut dire, le secrétaire. Il note par écrit et met en latin ses visions. Il en résulte un traité extrêmement important qui l'a rendu d'ailleurs un peu suspecte parce que les autorités ecclésiastiques se méfiaient un peu de ces femmes. On craignait toujours qu'elles se montent la tête ou qu'elles propage des hérésies. Et donc, quand elle est morte, on ne l'a pas du tout considérée comme une sainte. On l'a enterrée dans un petit coin obscur. Mais ses écrits ont continué à circuler, d'abord un peu sous le manteau, et puis on s'est aperçu finalement qu'ils n'étaient pas du tout hérétiques. Et elle est devenue l'inspiratrice de certains mouvements. Plus tard, la réforme, par exemple, de l'ordre franciscain au XVIe siècle, les Capucins se sont beaucoup inspirés d'elle. Ouais. Bien qu'étant analphabète et peu instruite, théologiquement en particulier, ces femmes arrivent à devenir des maîtres spirituels.
Oui, avoir de vraies réflexions.
Ce qui est vraiment tout à fait nouveau.
Et vous parliez d'une certaine méfiance du clergé masculin. Méfiance qui peut aussi s'expliquer parce que ces femmes-là prônaient une forme de spiritualité assez nouvelle pour l'époque. Elles n'expérimentent pas le religieux de la même façon que les hommes. C'est une expérimentation plus corporelle, sensorielle. Ça déstabilise les hommes.
Absolument. Et d'ailleurs, certaines de ces femmes y ont laissé leur vie. J'étudie dans ce livre en particulier le cas de Marguerite Porrette, qui est une béguine. Béguine, c'était justement ces femmes qui entraient dans les petites communautés informelles, comme on dirait aujourd'hui, appelées les béguinages, et qui vivaient vraiment intensément des expériences spirituelles et parfois mystiques. Eh bien, Marguerite Porrette, qui vivait à Cambrai, dans le nord de la France actuelle, Béguine développe une relation extrêmement intense avec Dieu et écrit, en langue vulgaire, bien sûr, je ne savais pas le latin, des poèmes, des textes qui avaient vraiment un contenu non seulement religieux, mais spirituel très fort. Et puis, comme c'est une femme peut-être un peu naïve, elle diffuse ses écrits. Et à ce moment-là, les écrits arrivent sous les yeux de l'évêque de Cambrai qui l'a fait arrêter, inspecté par l'Inquisition. On l'envoie à Paris et Philippe le Bel, qui n'aime pas ce genre de contestataire, l'a fait brûler en place de Grève, à côté de l'hôtel de ville.
Comme Jeanne d'Arc.
En 1311, comme le sera plus tard Jeanne d'Arc, voilà. Donc ça finit pas toujours bien.
Non.
Ce sont des femmes qui prenaient vraiment des gros risques. D'ailleurs, quand on l'interroge à Paris, l'Inquisition l'interroge, elle refuse de répondre. De toute façon, vous comprendrez rien à ce que je vous dirai. Donc c'est pas la peine. Et les inquisiteurs sont complètement éberlués par cette réaction. Mais on voit très bien, elle se situe sur un plan spirituel. Elle estime que ce qu'elle a vécu était authentique, était vrai. Donc elle va jusqu'à la mort. Ça finit pas toujours aussi mal non plus.
Non.
Mais c'est pour dire que il y a toujours une suspicion à l'origine sur le caractère réel, authentique de l'inspiration de ces femmes. La réaction première des prêtres ou des religieux quand on leur parle de ces femmes, est-ce qu'elles se montent pas la tête? Est-ce qu'elles se prennent pas trop au sérieux? Elles sont pas cultivées, elles savent pas lire. Bon, voilà.
Il y a des femmes quand même, malgré tout, qui sont peut-être un peu plus prises au sérieux de par leur milieu social, parce que vous parlez aussi d'une autre catégorie de femmes à la fin du livre, à laquelle appartient Brigitte de Suède, par exemple. Elle appartient à la catégorie des réformatrices. Brigitte de Suède, elle vient d'un milieu noble.
Aristocratique, tout à fait. Ouais, oui, la haute noblesse de Suède.
Et alors, c'était une femme d'action. Elle a vraiment réformé l'Église, on peut aller jusqu'à dire ça?
Oui, alors elle a essayé.
Elle a essayé.
On ne réforme pas l'Église comme ça, un coup de baguette magique, mais elle arrive à une période, la milieu du XIVe, où vraiment l'Église est en pleine déliquescence. C'est l'époque de la papauté d'Avignon, et l'Église est devenue surtout... apparaît surtout comme une grosse machine administrative et aussi un instrument de pouvoir qui interfère avec les pouvoirs monarchiques dans la société de l'époque.
Elle a des mots assez durs sur la gestion, sur
et
les
alors,
évêques.
Elle est une femme mariée, elle a eu 8 enfants, donc je veux dire, elle a une expérience humaine profonde, et puis elle devient veuve, mais à ce moment-là, elle décide de partir pour Rome pour essayer de diffuser ses idées dans parce que la Suède, c'était quand même très marginal dans la chrétienté de l'époque. Donc, elle se rend à Rome en pèlerinage en 1349. Là, elle rencontre des milieux réformateurs qui s'intéressent à ce qu'elle raconte, qui la soutiennent. Et en particulier, elle trouve l'appui, la sympathie d'un certain nombre de clercs, de prêtres, qui deviennent des membres de son entourage, et qui vont mettre par écrit ses visions, parce qu'elle est une prophétesse, donc
aussi,
elle annonce des choses, et en partie des catastrophes, parce qu'elle trouve justement que l'Église va à la catastrophe, et elle n'existe pas à accuser un des papes de l'époque des pires défauts.
Elle se fait un peu médiatrice de Dieu, c'est ça la prophétesse.
Donc elle apporte un message d'inspiration divine, dans une église qui était devenue quand même très administrative et politisée. Mmh. Et alors, ses écrits, parce qu'on a conservé d'elle 8 livres de révélations, donc c'est quand même pas mal.
Ouais.
Donc, ils sont enregistrés par son secrétaire, c'est très compliqué. Elle parle suédois, elle a un prêtre, un moine à côté d'elle qui est venu de Suède, qui est son interprète, qui transcrit du suédois en latin. Alors, elle a appris l'italien quand elle était à Rome, mais enfin...
Donc, c'est toute une procédure.
Toute une procédure de transmission complexe. Et à partir des années 1370, elle a un interprète privilégié qui est un ancien évêque qui a abdiqué pour se faire justement réformateur et qui est passionné par elle, qui est absolument ébloui par son talent et son génie et qui devient aujourd'hui, on dirait... Il fait de la publicité pour elle, voilà.
Conseiller presse, on pourrait dire.
il fait tout ce qu'il faut pour la faire connaître. Je dirais surtout un diffuseur de ses écrits qui seront ensuite traduits, alors retraduits ensuite en italien, en allemand. Elle va influencer l'Europe entière pendant un siècle, même à titre posthume ensuite.
Et alors, si elles ont marqué les foules de leur vivant, quid de leur postérité? Est-ce qu'elles ont eu droit aussi à leur biographie de sainte femme, comme les hommes de l'époque, après leur mort?
Oui, absolument. Alors justement, Brigitte, parce qu'elle était très critique, mais en même temps, elle était bonne chrétienne. Elle ne cherchait pas du tout à dénigrer l'Église en tant que telle. Elle cherche au contraire à l'améliorer, à la rendre plus parfaite, plus conforme à son message, etc. Donc une fois morte... On s'est rendu compte, en prenant un peu de recul, qu'elle avait eu raison de dénoncer toute une série de trahisons des valeurs évangéliques. Et elle est finalement donc canonisée, pas longtemps après sa mort, une vingtaine d'années, c'est pas beaucoup pour l'époque. Elle devient une sainte, elle est considérée comme une sainte, elle est vénérée surtout en Scandinavie, mais pas seulement, en Italie aussi. Voilà, donc elle devient une référence pour l'ensemble de la chrétienté, dans une perspective réformatrice. Et celle qui a alors le mieux réussi dans ce domaine, c'est sa presque contemporaine Catherine de Sienne.
Qui est un peu plus jeune qu'elle.
Qui est un peu plus jeune qu'à la génération suivante, mais à quelques années près, elles ont pu se connaître. Et qui prend le relais une fois que Brigitte est morte. Catherine prend le relais et devient elle aussi la prophétesse d'un renouveau spirituel de l'Église qui alors était tombée au plus bas, puisque en 1378, il y a ce qu'on appelle le grand schisme, à partir duquel il y a deux papes qui s'affrontent pendant 50 ans. Donc c'est vraiment le comble de l'horreur. On touche le fond de l'abîme, oui. Et elle cultive une relation très intense avec le Christ, et elle fait passer un message, là aussi, de réforme. Elle essaye de faire évoluer les papes. Elle écrit des dizaines de lettres aux papes de l'époque, et aux rois, et à tous les gens qui ont un peu de pouvoir et d'influence, pour essayer de les ramener, non seulement à la raison, oui. Mais aussi à une vie meilleure. Voilà. Donc, elle a une grosse influence de son vivant, et après sa mort, comme elle avait eu beaucoup de disciples, dont certains dominicains, certains clercs, vont faire beaucoup d'efforts pour diffuser ses écrits, là aussi les faire traduire, les faire approuver par la hiérarchie ecclésiastique, et finalement elle sera elle aussi canonisée, et proclamée sainte. Et on en parle encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué son temps, elle a été reconnue comme docteur de l'Église, comme saint Thomas d'Aquin, il y a une cinquantaine d'années, c'est récent. Mais enfin, on a fini par reconnaître ses mérites.
Alors là, on a parlé de Catherine, d'Angèle, de Sperandia, ce sont toutes des Italiennes. Il y a certaines zones géographiques qui étaient, comment dire, plus prêtes à donner de la place à ces femmes-là, plus que d'autres régions de l'Europe.
Dans l'Europe de l'époque, l'Italie est très en avance par rapport au reste, parce que l'Italie a développé très tôt une société urbaine. Il y a beaucoup plus de villes en Italie que dans la plupart des autres pays européens. Donc dans ces villes, s'est développé un milieu de, on dirait aujourd'hui, de bourgeoisie, parfois assez cultivée, enfin qui essaye en tout cas de s'élever culturellement, et qui est ouverte aux expériences nouvelles en matière littéraire ou religieuse, que ce soit à Dante ou des gens comme ça, sont inconcevables en dehors de l'Italie de l'époque. Alors que le reste de l'Europe, la France du Nord en particulier, est beaucoup moins ouverte à ces nouveautés, reste très fidèle au modèle monastique traditionnel. Et voilà. Donc on a un décalage chronologique, et je dirais que ce décalage, il a quelque sorte tragique, parce que la réforme protestante va se développer au début du XVIe siècle, dans les pays germaniques, dans ceux qui se sont le moins ouverts, qui ont été le moins influencés par cette religiosité féminine, qui, au contraire, avait connu un grand essor dans les pays méditerranéens. Voilà. Donc on a deux mondes qui sont devenus un peu étrangers l'un à l'autre, et c'est pourquoi la réforme protestante n'aura aucun succès dans les pays méditerranéens, qui, en quelque sorte, avaient déjà fait leur réforme avant. Mais elle va avoir un grand succès dans les pays qui étaient un peu, excusez-moi, arriérés du point de vue religieux, qui étaient restés un peu en arrière.
Alors, tout l'objet de ce livre, c'est de mettre en avant ces femmes passionnées de Dieu. Sans réduire à néant ces parcours si singuliers, on ne peut pas non plus parler de christianisme au féminin. C'est un peu le mot de la fin de ce livre, pour relativiser, malgré tout, le rôle de ces femmes.
Alors, christianisme au féminin, l'expression peut s'appliquer justement à ce monde italien, méditerranéen, oui. Que j'ai évoqué tout à l'heure, car là, vraiment, il y a eu de grands changements et les femmes y ont pris une importance absolument sans précédent. Mm-hmm. Mais ça ne vaut pas pour l'ensemble de la chrétienté, puisqu'il y a cette espèce de dualité que je soulignais à l'instant, enfin, entre un monde méditerranéen très ouvert au changement et à l'évolution dans le domaine religieux, et puis un monde plus traditionnel qui refuse le changement ou qui n'a pas été sensible, qui n'a pas accepté ce changement dans la mesure où il était plus rural et moins avancé du point de vue culturel. Donc la nouveauté, c'est quand même le fait qu'il existe à la fin du Moyen-Âge une manière spécifique pour les femmes de vivre leur vie religieuse, et ça n'existait pas trois siècles avant. Hein. Donc c'est en ce sens que on peut dire quand même que le Moyen-Âge, même s'il n'a pas résolu, loin de là, tous les problèmes que pose la présence des femmes dans l'Église, malgré tout a été une étape positive qu'on a souvent un peu négligée, parce qu'on vivait sur l'idée que les femmes étaient restées tout à fait extérieures au mouvement de vie, et ce qui n'a pas été le cas.
Alors, Alors, on a pris 3-4 exemples de femmes au cours de cet enregistrement. Vous en décrivez beaucoup plus dans ce livre. Est-ce qu'il y en a une qu'on n'aurait pas évoquée qui a plus retenu votre attention que d'autres, que vous aimeriez faire découvrir aux auditeurs?
Je suis parti d'études monographiques, c'est-à-dire j'ai pris des cas particuliers pour illustrer, d'abord pour que ce ne soit pas trop abstrait mon discours, et puis parce que je crois que c'est en étudiant ces diverses femmes qu'on arrive à se faire une petite idée de ce qu'a pu être la vie religieuse de ces femmes. Alors, ce qui les caractérise, c'est qu'elles appartiennent à des milieux très différents.
Hein. Oui.
J'ai parlé à un moment d'une bergère qui avait été assassinée, qui était considérée comme une martyre. Là, on est vraiment au niveau d'une religion populaire tout à fait basique, tout à fait dans un monde rural des Alpes italiennes. Et puis, il y a ces femmes, des tiers-ordres, qu'on appelle les tertiaires, des recluses, qui sont dans les villes italiennes très nombreuses, et parmi lesquelles il y a des personnalités d'élite. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont un certain pouvoir. Une des personnalités plus intéressantes que j'ai découvertes ces dernières années, c'était une reine du Portugal, qui s'appelle Elisabeth, qui est une femme assez extraordinaire. On la connaît particulièrement bien parce qu'elle a laissé un testament tout à fait intéressant après la mort de son mari. Son mari était un homme qui lui avait infligé toutes sortes de souffrances et d'humiliations. Mais une fois que son mari est mort, eh bien, elle fait un testament en disant eh bien, maintenant, je vais disposer de ma vie librement. Et donc, elle choisit d'aller vivre à côté d'une communauté de Clarisses. Mais elle dit bien, je ne vais pas entrer chez les religieuses, je ne vais pas me faire moniale. Je veux vivre ma vie de femme, de veuve de roi, et utiliser ce qui me reste de pouvoir pour le bien de la société. Et elle fait venir un groupe de jeunes filles à côté d'elle, qu'elle installe à côté d'elle pour les instruire. Elle fait donner des dots à des filles pour qu'elles fassent des études. Elle-même fonde un hôpital. Enfin, vous voyez, elle se lance, si je peux dire, maintenant qu'elle est seule, qu'elle peut disposer de sa liberté, eh bien, elle se lance dans la vie active. Aujourd'hui, on appellerait ça philanthropique, mais aussi religieuse au sens le plus strict du terme. Et puis, comme elle a encore de l'influence, parce qu'elle est très influente en Espagne, sur son fils, son gendre, sont tous des rois quelque part en Espagne ou au Portugal, et elle s'implique à fond dans la vie sociale, et en particulier dans la pacification, empêcher les conflits, essayer de mettre fin aux guerres qui opposent ces rois les uns aux autres, etc. Et elle meurt d'ailleurs après avoir réconcilié son fils et son gendre, qui était roi d'Aragon, qui était en train à la veille de se faire la guerre. Et donc, c'est très beau de voir cette femme qui a été une épouse malheureuse, durement traitée, et qui s'épanouit à la fin de sa vie.
Qui renaît en quelque sorte.
Voilà, et qui renaît à travers une action à la fois culturelle et religieuse et politique dans le sens d'une pacification de la société et du monde.
C'est un parcours extraordinaire à découvrir parmi d'autres donc dans ce livre, Les passionnés de Dieu, expérience religieuse féminine au Moyen-Âge. C'est à retrouver aux éditions du Cerf. Merci André Baucher.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.